Les Yankees et plusieurs équipes frappées par les blessures.
Je vous propose ma formation partante des Blue Jays.
Le baseball majeur met les pieds en Asie.
Tout ça et bien plus avec la question de la semaine et le segment sur les cartes de baseball.
En jeu! Deuxième prise, compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à notre balado compte complet. Reste moins de deux semaines avant le début de la saison régulière. Marc, ça tombe et on va commencer par probablement la blessure qui a fait le plus jaser depuis le début du camp d'entraînement. Blessure au coude à Garrett Cole. Et c'est problématique parce que Cole, bon, considéré par certains comme étant le meilleur lanceur du baseball majeur, c'est ta locomotive. T'en as besoin si tu veux aller loin. Et là, écoute, c'est minimum deux semaines sans lancer. Ça veut dire que au mieux, c'est à la fin avril qu'on va le voir avec les Yankees.
Écoute, Alain, t'es très optimiste dans ce cas-ci. Selon moi, c'est beaucoup plus tard que ça. Pas l'impression que Cole va... Écoute, je suis pas médecin, j'ai pas vu les résultats, mais ça semble vouloir être un peu plus grave dans son cas. Toujours est-il que... Tu fais bien de mentionner qu'un numéro 1, là, c'est le genre de lanceur qui t'empêche d'avoir un long passage à vide, qui te ramène sur le chemin de la victoire, qui rassure un peu tout le monde dans l'organisation. Et là, si tu ne l'as pas en début de saison, puis il y a toujours le doute que ça soit vraiment pour une très longue période. Alors, c'est pas évident, honnêtement, parce que on posait la question il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce qu'on fait après Garrett Cole? T'sais, qui va prendre les... Est-ce que Rodon va devenir le lanceur qu'il était auparavant? Est-ce que Nestor Cortes peut vraiment être un numéro 2 dans ce cas-ci? Là, c'est Cortes qui va lancer le match d'ouverture. Ça expose un peu ce problème, selon moi, Alain, de cette profondeur au niveau des lanceurs partants chez les Yankees. T'sais, Clark Schmidt, c'est pas mauvais du tout. Là. C'est vraiment pas mauvais. Mais est-ce qu'on peut espérer gagner le titre de la division sans Garrett Cole une bonne partie, en tout cas certes en début de saison, la question se pose là.
Oui, bien écoute, Rodon n'a pas encore retrouvé sa balle rapide. C'est un gars qui se fie énormément à son contrôle de la balle rapide pour avoir du succès. Claude Cortes a montré que quand il est en forme, c'est un lanceur qui peut rendre de bons services. Clark Schmidt marque son problème l'année passée. C'est qu'au-delà de 5 manches, c'est extrêmement difficile. Traduction, le troisième tour lui a fait très, très mal. Donc, est-ce que c'est une équipe qui va falloir qu'il gagne ses matchs 9 à 8?
Ben, écoute, je sais qu'évidemment, l'arrivée de Juan Soto, on en a parlé déjà auparavant, ça va grandement aider. Par contre, tu as d'autres défis aussi en attaque. Aaron Judge va jouer au champ centre, Alain. C'est plus exigeant, c'est plus imposant de courir au champ centre. Donc, est-ce que ça va affecter son coup de bâton? Et on sait qu'il est fragile. Il y a quand même beaucoup de si, là, parce qu'il y a des vétérans. Tu sais, des gars de Le Mayo et Rizzo, on parle des gars de 34, 35 ans, Stanton. Alors, c'est sûr que Soto vient faire du bien, mais est-ce qu'on va être capable de marquer les 9 points dont tu fais mention? Tu sais, on va peut-être en accorder 8, mais on va dire en marquer 9. Moi, ma question, c'est... En fait, ma question, lorsqu'on a fait l'acquisition de Juan Soto, je me disais, les Yankees vont passer de 82 victoires l'an dernier, bon, à peut-être quoi, 93 victoires, mais ça, c'était avec Garrett Cole. Là, c'était pas Garrett Cole en début de saison ou pendant un certain nombre de départs. Est-ce qu'on tourne autour de 88, 9, 10 victoires du côté des Yankees? Est-ce que ça va être suffisant pour passer au travers? Il y a des grandes questions à se poser là, du côté des Yankees et c'est de valeur qu'un Jason Dominguez par exemple n'est pas disponible. On sait qu'il a subi l'opération de type Tommy John. Il y a des jeunes qui poussent quand même, mais je regarde la formation, ce sont les vétérans qui vont commencer l'année, donc c'est quand même pas évident là, de savoir comment les Yankees vont réagir là, avec cette perte de Garrett Cole.
Oui, avec un receveur recru en plus, Marc, qui va jouer beaucoup cette année. En tout cas, ça semble être le plan. Puis, écoute, quand on a embauché Marcus Stroman, moi, je trouvais que c'était une excellente acquisition compte tenu du prix qu'on a payé, compte tenu du fait que Stroman s'est jamais défilé devant la pression. Cette acquisition-là vaut encore plus aujourd'hui compte tenu de la situation de
Absolument.
Cole.
Moi, je suis bien d'accord. Un gars qui amène encore une fois une belle énergie ce côté des Yankees. Et là, par contre, je me pose aussi une autre question au niveau des Yankees. Est-ce que la stratégie de Scott Boras de se dire on va attendre qu'une blessure
Non.
importante dans une équipe qui a beaucoup d'argent pour aller bon, mettre sous contrat finalement un Blake Snell ou Montgomery? Ça ne semble pas être le cas,
Ouais.
Alain. Et pour moi, s'il y avait eu, excusez l'expression, mais s'il y avait déjà eu un fit entre, par exemple, un Blake Snell et les Yankees,
Ouais.
il me semble que ce serait déjà arrivé, là, bien avant, là, même probablement bien avant la blessure à
Ouais.
Gerrit Cole.
Il y a une chose dans le cas de Blake Snell en particulier, puis ça s'applique aussi à Montgomery, Marc, c'est que l'arbitrage a été offert. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a une compensation à payer. Deux choix au repêchage dans le cas de Blake Snell. Je pense que les Yankees n'auraient pas trop de problèmes. Il y a 1 million de dollars aussi en boni aux joueurs internationaux. Ça chicote un peu les Yankees. Parce que s'il y a un endroit où les Yankees de New York ont un avantage sur les autres équipes, à part l'épaisseur du portefeuille, puis l'avantage de jouer à New York, c'est là-dessus. Les joueurs dominicains, Marc, particulièrement, veulent jouer à New York et sont prêts à accepter moins d'argent. Donc, les meilleurs prospects, souvent, vont choisir d'aller à New York avec un peu moins d'argent. Ce million-là de dollars-là qu'on peut donner à un joueur dominicain, tu sais, de premier plan, qui coûterait peut-être 2-3 millions pour une autre équipe, mais les Yankees, ce million-là, veulent pas le donner. Moi, c'est mon évaluation de la situation des joueurs autonomes lanceurs parce que, regarde, c'est pas logique, compte tenu du passé des Yankees, effectivement, qu'on se tourne pas vers Montgomery et Snell, mais moi, je pense que c'est la compensation monétaire des joueurs internationaux qui fait peur aux
Ben,
Yankees de New
c'est
York.
sûr, Alain, il y a quelque chose qui fait peur. Parce que c'est le scénario parfait. Tu perds, bon, Gerrit Cole pour un certain nombre de départs, ton numéro un. Il y en a deux qui sont disponibles sur le marché. Probablement que Montgomery ne veut pas retourner à New York.
Ouais.
Je ne sais pas si ça s'est mal terminé ou peu importe. Mais il y a quelque chose qui se passe qui fait que, justement, ces deux gars-là sont
Ouais.
encore libres comme l'air en ce moment. Je suis d'accord avec toi. Il y a certainement une raison et celle-ci fait bien du sens, là.
Écoute, on va passer rapidement. On a parlé beaucoup des Red Sox dans nos balados. Marc, Giolito lancera pas cette année. Bien sûr, au coude. Si c'est Giolito de l'année passée, est-ce qu'il va manquer tant que ça aux Red Sox de Boston? Moi, je pense que ça fait juste illustrer jusqu'à quel point les Red Sox sont dans le trouble.
Ben, je pense que on cherchait des manches avec Giolito. On voulait beaucoup. T'sais,
Ouais.
je regardais la formation des Red Sox. C'est sûr qu'au niveau des lanceurs, il y a des gros questionnements. Il n'y a aucun lanceur là-dedans
Ouais.
qui a déjà dominé. Bon, Nick Pivetta est vraiment pas mauvais, mais t'sais, lequel va se présenter? T'sais, il y a eu un peu manque de constance dans sa carrière. Bayo est vraiment pas mauvais, on l'a signé à long terme, mais est-ce que c'est un réel numéro 1? J'ai l'impression que parfois qu'on se retrouve avec un paquet de lanceurs numéro 3 et 4 dans la formation. On fait confiance à deux vétérans en fin de match, des gars de 36-37 ans, pour terminer
Ouais.
les matchs. C'est vraiment au monticule que ça va se passer. On est une équipe assez athlétique, disons, au niveau des joueurs de position. Il y a des choses intéressantes à ce niveau-là. Il y a des jeunes qui poussent, mais ce ne sera pas suffisant, c'est sûr, dans la division Est de la Ligue américaine, là, de se faufiler à. T'sais, moi, je pense que les Red Sox, actuellement, ont une équipe qui va jouer pour à peu près 500.
Ouais. Écoute, d'autres blessures, Marc, tu veux celle de Bryce Harper. C'est pas qu'il est blessé, mais les Phillies sont préoccupés par sa
Ouais,
condition.
ben les raideurs au dos, pas frappés avec beaucoup de puissance au camp d'entraînement. Bon, c'est sûr que c'est un camp d'entraînement. Je sais qu'il faut pas paniquer avec ça. Il y a peut-être, on veut laisser à Harper le temps de bien se préparer. Peut-être que lui n'avait pas besoin de tant de présence au bâton que ça lors des matchs préparatoires. Mais ça reste quand même une situation à surveiller à Philadelphie en début de saison. Si Bryce Harper commence la saison premièrement, si, et s'il commence, est-ce que on va. En tout cas, c'est un élément à surveiller, C'est ça le danger des camps d'entraînement, Alain. Hein? Tu sais, les blessures à des joueurs importants, là, soudainement, faut que tu tournes vers un plan B. Donc, il y a des éléments qui sont importants à regarder en début de saison. Et là, pour les Phillies, ben, c'est l'état du dos de Bryce Harper.
Oui. Et écoute, Marc, est-ce que ça veut dire que Harper pourrait être frappeur de choix et qu'on va mettre Schwarber au premier? Est-ce que ce serait ça qui serait l'option B pour les Phillies?
Moi, je pense logique, que le problème, c'est que si Harper a des problèmes au dos, c'est au bâton que ça l'affecte. Donc, j'ai l'impression que soit qu'il commence tranquillement, pas vite, ou on verra bien. Là. Évidemment, il reste encore quelques temps avant le début de la saison, là, mais c'est sûr qu'à Philadelphie, là, on veut qu'un joueur comme ça, tu sais, commence la saison, qu'on puisse avoir un bon départ à la saison. On sait à quel point c'est important là, de connaître un bon début de saison pour ne pas être obligé de jouer du baseball de rattrapage dès le deuxième mois de la saison.
Oui. Puis écoute, puisqu'on est dans l'Est de la Nationale, Eury Pérez des Marlins, Marc, ça doit être pratiquement le numéro 1 cette année. C'est loin d'être sûr qu'il va lancer cette année. Écoute, malaise au coude, puis ça ne regarde pas bien. Je pense que les Marlins vont finir dernier, moi, cette année.
Écoute, c'est de valeur, un des plus beaux bras du baseball. Là. C'est les Marlins comptaient sur lui. Donc, c'est une lourde perte, effectivement, pour les Marlins. Et ça va effectivement affecter leur classement dans la division, ça, il n'y a aucun doute.
Oui. Marc, on va y aller tout de suite avec notre question de la semaine. Puis ça touche les Yankees de New York. Écoute, est-ce qu'ils vont remporter 90 matchs cette année et en tenant compte de l'incertitude entourant Gerrit Cole? Regarde, cette incertitude frappe beaucoup d'équipes, là, mais on parle des Yankees. Est-ce qu'ils vont être capables d'atteindre 90 matchs? Donc, c'est la question de la semaine qui est présentée par Sylvain Rotoville, votre détaillant pour les deux voitures et deux camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylvain.ca. Donc, on attend vos commentaires. Marc, t'es plus ou moins optimiste, hein, si je me fie aux commentaires rapidement.
Ouais, non, effectivement, moi, j'ai l'impression que ça va être, oui, Gerrit Cole, extrêmement important, et surtout si ça perdure, là, cette blessure, ou en fait, cette absence. Mais, tu sais, il y a aussi l'attaque là, qui, selon moi, il y a des points d'interrogation à ce niveau, même avec l'arrivée de Juan Soto.
Oui. On vous invite donc à aller sur facebook.com/compte-complet-balado pour vos commentaires. On a parlé des blessures. Il y en a dans plusieurs équipes et chez les Blue Jays, encore, dira-t-on, Danny Jansen des Blue Jays de Toronto qui devait être le receveur numéro 1. Mais Marc, j'ai quand même regardé certains matchs des Blue Jays. Kirk frappe bien, il va bien. Servant connaît un bon camp avec les Blue Jays. On est satisfait de son travail. Si c'est pas trop long, les Blue Jays devraient pas être affectés.
Si c'est pas trop long, je pense que c'est la phrase clé. Parce que Kirk peut être très efficace, tu l'as dit, il connaît un très bon camp à l'attaque. C'est juste que ce gars-là a besoin d'une ou deux journées de congé, au moins, selon moi, par semaine, lorsqu'il agit comme receveur régulier. Et c'est pas un gars qui va aller 7, 8, 10 matchs consécutifs derrière le marbre. Donc, oui, si l'absence, elle est que deux semaines, si on est optimiste là, du côté des Jays, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut... Mais quelle malchance pour Jansen. Ce gars-là, il est constamment blessé, main, poignet. Ouais. Encore une fois, atteint d'un tir. Donc, il a joué de malchance à ce niveau-là. Mais les Blue Jays ont besoin quand même d'un Jansen. La saison est longue, on le sait. Kirk ne peut pas faire tout seul. Je sais qu'il y a un troisième receveur qui... Et évidemment, on va... Parce que ça fait partie des décisions de fin de camp d'entraînement, Alain. Ta formation des 26 joueurs, est-ce qu'on traîne trois receveurs ou on a un Joey Votto qui vient d'arriver? Il y a un paquet de choses là, à considérer. Là.
Exactement. Servin, au moment où on se parle, n'est pas dans le 40 joueurs. Donc, il y a des décisions qui devront être prises à un moment donné. Écoute, tu parlais de son travail. On l'a tellement en haute estime que... On a échangé Gabriel Moreno parce qu'on avait confiance en Jansen. On aime la façon dont il se comporte derrière le marbre. Les lanceurs l'adorent. Quand il est en forme, Marc, c'est un gars dangereux au bâton. Il a de la puissance. Tu regardes son ratio de coup de circuit depuis 2-3 ans, Marc. Quand il joue, c'est au-dessus de la moyenne du baseball majeur. Les Blue Jays ont en haute estime, c'est pas pour rien. Là.
Oui, mais là, c'est sûr que lorsque tu ramènes la transaction de Moreno, ça fait un petit peu mal. Ben mais, oui, mais effectivement. Non, mais tu sais, et Kirk et Jensen sont pas vieux. Là. C'est des gars qui peuvent être là pendant encore plusieurs années. Ouais. Alors, tu as raison. Mais il faut qu'un Jensen, bon, évidemment, on dit ça de n'importe quel joueur, mais tu sais, reste en santé, reste dans la formation. C'est sûr qu'il amène un plus à cette équipe-là lorsqu'il est, il est de la formation. Ça fait un des bons duos de receveurs du baseball si on considère les chiffres à l'attaque seulement. Ouais. Là, si on combine leurs deux statistiques, c'est une des positions intéressantes pour les Blue Jays de Toronto. Là.
Marc, dans ta boule de cristal, est-ce que c'est réglé au deuxième but et au troisième but chez les Blue Jays?
Ben non. Réglé dans le sens où il n'y aura pas de joueurs réguliers. Peut-être, on va faire des tests, là. T'sais, je pense que Connor Falefa va commencer la saison troisième, en tout cas, selon moi. Schneider et Biggio vont probablement se partager un peu de poste au deuxième, puis jusqu'à temps qu'il y en a un qui décide que c'est lui qui va avoir le poste là, par son rendement. Pense pas, moi, que c'est nécessairement réglé. Là, le problème, c'est... pas le problème, là, c'est un beau problème de voir un gars comme Clement... qui va très, très bien, qui connaît un bon camp. Est-ce qu'il va faire partie de la formation? Si c'est le cas, ben il va avoir... Tu comprends ce que je veux dire? Là? C'est qu'il va avoir des décisions à prendre. Là.
Absolument. Clement connaît un camp du tonnerre. Je veux dire, ce serait injuste, honnêtement, là, de le retourner dans le baseball mineur. Au champ extérieur, Marc, ça semble réglé. Il s'agit de savoir, il y a des gars de trop. Moi, la semaine passée, Marc, je laissais entrevoir qu'Escobar... Je ne vois pas comment il va pouvoir avoir une place au sein de la formation des 26 joueurs là, des Blue Jays.
Non. Et moi, écoutez, je vous propose un peu là, ma formation partante, puis je vais peut-être surprendre bien des gens, là, parce que bon, je sais que Springer a été le premier frappeur longtemps, mais j'aimerais ça voir soit Schneider ou Biggio avec, évidemment, leur moindre de présence sur les buts. J'aimerais ça voir ce type de joueur-là au premier rang du rôle. J'aimerais ça voir, s'assurer d'une présence. Puis là, après ça, bien évidemment, Bichette, Guerrero, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Bien, il y a des options, mais évidemment, mais j'aime voir Bichette et Guerrero dès la première manche au bâton. Vlad connaît un bon camp. Bichette va frapper, va probablement faire partie des meneurs au niveau des coups sûrs. Fait que ça serait les trois premiers frappeurs. Et après ça... Bon, les présences des deux vétérans, Turner et là j'inclus / Joey Votto, peut-être avec des droitiers gauchers, on verra bien, mais ce type de frappeur-là qui frappe après Vlad, pourquoi? Parce que ce sont des gars qui sont capables d'aller, sont capables d'aller chercher un gros coup sûr, ils ont encore un peu de puissance, mais ils sont surtout très patients. Fait que si on veut pas affronter Guerrero, puis on veut aller vers un Turner ou Votto, oups, on peut se faire jouer un tour, on peut se retrouver finalement avec deux ou trois coureurs sur les buts. Et c'est là que je mettrais un Springer, moi, au cinquième rang du rôle. J'aimerais mieux voir Springer produire des points ou être au bâton avec des coureurs sur les sentiers que d'amorcer une manche. Et à ce moment-là, ça enlève un peu de pression, on va appeler ça ainsi, à Varsho qui frapperait derrière à ce moment-là Springer. Parce que Varsho, on compte sur lui, évidemment, du côté des Jays pour exploser et débloquer cette année. Et là, par la suite, je mettrais un Kiermaier. Alors, Varsho et Kiermaier, là, c'est à ton côté vitesse du rôle offensif qui devient intéressant. Parce que je ne mettrais pas Kirk tout de suite. Pourquoi? Parce que Kirk vient enlever de la vitesse à ces gars-là. Si Kirk frappe devant un Kiermaier ou un Varsho, puis il se ramasse au premier but, ou il se ramasse, tu comprends? Puis là, après ça, il y a un but sur balle, par exemple, à un Kiermaier ou un Varsho. Les gars ne peuvent pas utiliser leur vitesse. Tu comprends, il y a un gars là, qui n'a pas devant lui. Fait que moi, à ce moment-là, je mettrais un gars comme Connor Falefa 8e et je mettrais un Kirk 9e, par exemple. Puis, tu sais, 9e, juste parce que ce gars-là peut avoir une certaine puissance et ça génère donc une belle petite puissance dans le bas du rôle offensif et ça nuit pas à la vitesse de ceux qui sont capables d'aller chercher de temps en temps un vol de but ou marquer du premier sur un double.
Oui, Marc, le seul petit bémol, et là tu pourras préciser ta pensée là-dessus là, si je m'en vais si je suis dans le champ gauche, là, mais tu peux pas faire frapper Kiermaier puis Varsho un derrière l'autre. Là. Ça prend un droitier entre les deux.
Ben, écoute, oui, effectivement, mais je veux dire, ça avait, tu sais, je veux dire, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça, personnellement. Mais si c'est le cas, tu peux mettre un corner fairly fun entre les deux. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, ça tu peux régler ouais. ça de cette façon-là. Je veux juste pas... Il faut comprendre que lorsqu'on bâtit un rôle offensif, il faut que tu considères que, en tout cas, selon moi, là, si tu as des gars qui sont rapides, il faut qu'ils exploitent leur vitesse sur les sentiers. Mais si devant eux, tu as deux ou trois gars qui sont plutôt lents, ben tu viendras pas marquer du premier but sur un double parce que tu vas arrêter Kirk au troisième. Fait que là, tu vas t'arrêter. Tu comprends? Fait que il y a des choses là, à considérer lorsque tu as des marchands de vitesse dans ton équipe et lorsque des gars qui sont extrêmement lents. Et dans le cas de Kirk, on sait que c'est lent. Puis, tu veux éviter les nombreuses balles à double jeu dont les Jays ont été victimes aussi l'année dernière. Donc, il y a peut-être moyen de jongler avec ça. Mais la clé est peut-être de mettre un Springer, selon moi, un peu plus dans le cœur de la formation que de le mettre au premier rang. Je sais que c'est un grand changement et qu'il a toujours frappé là, au premier rang, mais l'impression que les Blue Jays pourraient avoir un cœur de formation plus intéressant avec un Springer qui frappe cinquième.
Ouais. Écoute, bon, Joey Votto, un élan, un coup de circuit. C'est fait mal à la cheville par la suite, là, mais il a trouvé le moyen de se faire des amitos.
Ben, écoute, tu sais, moi, je l'aime pas mal mieux Votto que Vogelbach, par exemple. Écoute, on verra bien. Oui, il a pilé sur un bâton, là, c'est tourner la cheville, mais ça ne devrait pas être trop, trop grave. Mais effectivement, moi, j'aime son attitude. Il s'en va dans les ligues mineures, s'en va frapper, arrive dans les ligues majeures. Bon, puis c'est pas comme n'importe qui, son coup de circuit, là. Le fait qu'on dit Zach Wheeler, là. Donc, je pense que, tu sais, il amènerait que... Je pense qu'il est encore capable d'amener quelque chose de pas mal le fun à cette équipe-là, si ce n'est que son expérience, mais je pense qu'il est capable de produire suffisamment dans son utilisation, tout comme Turner d'ailleurs. T'sais, ces gars-là ne seront pas là pour jouer tous les jours. Ils ne peuvent pas, selon moi, jouer tous les jours. Mais si on est capable de les combiner puis de les amener à jouer le plus reposé possible, on peut avoir, selon moi, des rendements fort intéressants de la part de ces deux vétérans-là.
Bon, un mot rapide pour finir avec les Blue Jays. Tu as aimé ce que tu as vu de Tiedemann?
Oui. Puis, écoute, c'est intéressant du côté des Blue Jays. Je sais que, bon, Gausman a encore des points d'interrogation. Manoa aussi. Mais, tu sais, Francis fait un travail fort intéressant. Tu sais, il y a un certain potentiel, il y a une certaine profondeur là, au monticule qui est intéressante. Tu sais, c'est sûr que tu aimerais avoir un Gausman en santé, mais moi... Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu du jeune lanceur gaucher.
Bon, Marc, c'est temps de la carte de la semaine. On va mélanger deux sports. C'est le March Madness. Donc, la carte de la semaine, c'est une présentation de CAD, de tradeunion-depot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 14 000 articles en vente sur eBay. On va parler de Michael Jordan, carte spéciale d'insertion. Ce qui peut peut-être étonner, on ne parle pas d'une carte de 1994. Pourquoi 94? C'est l'année où il a joué au niveau 2A avec Birmingham dans la Ligue Southern. C'est une carte d'Upper Deck, 1991, carte SP1. 3 ans donc avant que Michael Jordan tente sa chance dans le baseball professionnel. Et bon, Upper Deck, qui aimait bien produire des cartes hors normes, si je puis dire. Puis, l'aventure de Michael Jordan, Marc, tu jouais au niveau 2A à cette année-là, c'était dans la Ligue Eastern. Tu jouais au même niveau que lui. C'était un bon quand même appréciable à quiconque, Marc. Tu n'as pas été un athlète né. S'il avait commencé dans la Ligue des recrues, ça aurait été un défi. On l'embarque tout de suite au niveau 2A. Écoute, il voulait se payer un trip, Michael Jordan. Il l'a fait. Mais c'était peut-être y en demander pas mal.
C'est pas évident, hein, tu sais, c'est pas le premier qui a essayé là, comme athlète extraordinaire là, parmi les plus beaux athlètes de tous les temps là. Mais tu sais, le baseball, il y a une raison là, Alain, pour laquelle tu sais il y a beaucoup de matchs, tu pratiques, bon, tu t'exerces à tous les jours, c'est que c'est pas facile de frapper une balle de baseball.
Ouais.
J'ai trouvé qu'il a T'sais, il a été très bon. Il n'a pas atteint le niveau des ligues majeures, puis il n'a pas eu une carrière dans le baseball majeur. Mais Alain, la différence entre du baseball 2A et du baseball majeur, en termes de talent, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est souvent au niveau de la constance puis de l'inexpérience, mais je veux dire, il y a du talent énormément au niveau 2A. Donc, d'affronter des lanceurs qui lancent 95 plus, il y en avait déjà à cette époque-là, puis et c'est très bien débrouillé. Mais l'histoire qui est intéressante dans son cas, c'est lorsqu'il est arrivé dans le 2A, bien, ça reste des ligues mineures. Et là, bien, évidemment, tu voyages en autobus. Et lorsqu'il est rentré dans l'autobus la première fois, il dit « On voyage dans ça ». Et je pense que le voyage suivant, là, en tout cas, le voyage suivant, les gars sont arrivés au parc, on partait très tôt le matin et il y avait un autobus flambant neuf, disons, avec un peu plus de luxe à l'intérieur. Alors, les joueurs, les coéquipiers ont beaucoup apprécié la présence de Michael Jordan durant cette saison-là.
Oui, puis écoute, Marc, une petite anecdote rapide, et ça implique un cas que tu as connu, Mike Hoff. Je parle pas de l'ancien joueur de hockey des Nordiques, là, je parle de l'ancien joueur de baseball là, que tu as connu, je pense, dans l'organisation des Dodgers.
Exact.
Et Mike Hoff était avec les White Sox de Chicago. C'est un voltigeur, bon voltigeur. Et après la saison 93, on appelle Mike Hoff et on lui dit, c'est dans l'entre-saison, en cours de l'hiver, il dit « Mike, il y a un gars des ligues mineures là, avec lequel on aimerait que tu travailles là, sur sa défense. » Puis Mike Hoff n'était pas très, très entiché parce que son poste à lui, t'as même pas assuré. Il dit « Ben oui, je m'en vais aider quelqu'un à prendre ma job. » Donc, mais on lui avait pas dit c'était qui. Fait que tu comprends que quand il s'est présenté puis qu'il a aperçu Michael Jordan, écoute, c'était l'athlète probablement le plus connu sur la planète à ce moment-là, en basketball assurément, puis regarde, c'est lui qui a élevé la NBA où c'est rendu aujourd'hui. Donc, je peux te dire que Michael a été plutôt surpris de voir arriver Michael Jordan. Et tout ça se faisait dans un gymnase, là, comme je vous dis, c'était en plein milieu de l'hiver. C'était une de ses expériences. Il nous avait raconté cette histoire-là au cours d'une réunion de la Sabre. Marc, le commissaire du baseball, Rob Manfred, un de ses buts, c'est d'internationaliser le baseball. Puis là, je ne parle pas d'aller dans des contrées qu'on connaît déjà. Là, on s'en va jouer des matchs de saison régulière à Séoul. Les Dodgers contre les Padres de San Diego. Tu comprends que le joueur d'Areco Kim est très populaire là-bas. Lui, il est comme un poisson dans l'eau. Écoute, on a déjà joué au camp d'entraînement deux matchs, c'était pas de saison régulière, mais deux matchs hors concours à Santo Domingo, en République dominicaine, entre les Red Sox de Boston et les Rays de Tampa. Ça a été un succès bœuf, parce qu'on n'y va pas si souvent que ça, Marc, à Porto Rico et en République dominicaine, surtout pas en République dominicaine. Et ça a été un très, très gros succès. Et on sait qu'on est allé à Londres, on voulait aller à Paris, ça a été retardé. Et là, est-ce que Manfred n'est pas en train là, de regarder un petit peu là, pour que finalement son but ultime soit atteint?
Ben, oui. Par contre, tu sais, Manfred a déjà annoncé que c'est son dernier mandat. Puis un de ses premiers mandats lorsqu'il est arrivé, rappelle-toi Alain, c'était, bon, peut-être de l'expansion. Et je pense que lui va finir son mandat sans expansion. Donc, ça sera peut-être un échec à ce niveau-là. Mmh. Mais c'est sûr que la popularité, bon, des matchs à Londres, tu as parlé, évidemment. Bon, moi, je veux pas me rappeler des souvenirs de Porto Rico avec les Expos parce que ça, c'était c'est pas des très bons souvenirs. Mais tu vois, par contre...
Pas le même contexte, Marc.
Ouais, non, je comprends. Mais en fait, là, on pourrait repartir un autre débat que le baseball n'a pas fait grand-chose pour garder les Expos à Montréal. Mais bon, on s'en ira pas là aujourd'hui. Mais c'est sûr que le baseball en Asie, Alain, tu le sais, là, on a suivi les Jeux olympiques ensemble. La popularité du baseball en Asie est incroyable. Et là, la présence, évidemment, des Dodgers, de Shohei Ohtani, de Yamamoto aussi. Tu as parlé de Kim. On s'en va là-bas, c'est extraordinaire. J'ai écouté le premier match, je regarde les entrevues, les joueurs semblent emballés. Alors, c'est sûr que si le baseball majeur se colle, évidemment, au succès du baseball en Asie, je ne dis pas d'avoir une équipe, une franchise, mais de garder ces relations-là, il y a quelque chose de spécial. On veut quand même que ce soit les meilleurs joueurs au monde qui jouent dans le baseball majeur. Puis je pense que les gens, je sais que les gens au Japon ou en Corée sont très, très fiers de voir comment les Ohtani de ce monde et les Kim de ce monde. Donc, c'est une belle réussite. Je pense que ça va être très, très bon. C'est pas évident, par contre, pour les deux équipes. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est là-bas parce qu'il faut s'habituer au...
Ouais.
Au changement d'heure, évidemment, et ce sera le cas lorsqu'on va revenir. Mais deux belles équipes là-bas, ça va être un très, très bon spectacle. Puis, tu sais, c'est sûr que les Dodgers, présentement, avec leur formation, c'est toute une vitrine là, pour le baseball majeur d'aller faire cette tournée-là pratiquement en Corée. Bonne décision. Moi, je pense que c'est correct d'internationaliser donc le baseball davantage. On aimerait ça que ce soit aux Jeux olympiques aussi, de façon plus régulière, là. Mais dans le cas de Manfred, Alain, pas certain que c'est pour des expansions à l'extérieur des États-Unis. C'est un peu ça que je veux dire.
Bon, Marc, ça va revenir aux Olympiques. Mais là, il y a quelques joueurs là, dont Bryce Harper, qui ont indiqué leur intérêt à participer aux Jeux olympiques. C'est ce qui en ferait vraiment un sport international. Et il y a un petit peu d'hypocrisie là-dedans de la part du mouvement olympique. Il faut bien le mentionner. Là. Bon, on ne prend pas le baseball parce qu'on n'a pas les meilleurs. On n'a pas les meilleurs au soccer non plus, puis on a quand même un tournoi de soccer. Il y a des restrictions, on ne veut pas prendre la place de la Coupe du monde. Mais là, il y a des joueurs qui aimeraient ça. C'est pas dans les mœurs du baseball majeur. C'est pas dans les mœurs des propriétaires qui ont tendance à regarder dans leur cours à eux plutôt que d'aller plus loin que le bout de leur nez. Regarde, j'ai lu assez de bouquins sur le business du baseball pour savoir que, écoute, travailler en équipe, ben, tu sais, c'est pas dans les mœurs des propriétaires du baseball majeur. Est-ce que tu as une lueur d'espoir qu'on puisse, à un moment donné, voir les meilleurs dans un tournoi? Je parle pas de la Coupe du Monde, on est en début de saison, les gars sont pas en forme, mais de voir les gars, de voir vraiment toutes les meilleures équipes, les meilleurs Cubains, les meilleurs Dominicains, les meilleurs Américains, les meilleurs Canadiens, il y aurait une bonne équipe là, au Canada. Est-ce que tu penses qu'on va être capable d'aller là à un moment donné?
Écoute, si tu me demandes la question lueur d'espoir, je vais dire oui. Parce que ce que la classique mondiale nous offre là, au cours des dernières années, c'est quand même du très, très bon baseball. Tu l'as dit au mois de mars, c'est pas parfait, évidemment. On n'a pas toutes les meilleures, bon, bien des raisons. Mais si on va avoir les meilleurs en milieu de saison, si c'est pas en plein de camp d'entraînement, écoute, ça serait fantastique. Je comprends les propriétaires, le risque de blessure, puis si c'est inévitable. Là, mais pour le bien du sport, moi, je trouverais ça extraordinaire. Premièrement, idéalement, le calendrier est exigeant, Alain. On le sait, là, c'est 162 matchs, puis là, si jamais il y a expansion, on pourrait peut-être diminuer à 156, puis déjà, ça ferait du bien. Mais, tu sais, une petite pause, là, que ce soit une semaine ou une dizaine de jours, je sais qu'on ne peut pas faire ça, mais ça serait déjà très bienvenu par la plupart des joueurs. Mais, bon, toujours est-il qu'il y aura des grands défis, là, mais je pense que ça se travaille, Alain, tu sais, de faire, sans faire des camps d'entraînement, là, tout de suite, de toute façon, là, qui pourrait faire partie de ton équipe. Tu n'as pas besoin nécessairement de deux semaines. Tu as un tournoi, tu peux peut-être réussir à le faire à l'intérieur de quelques jours. Là, sans, en tout cas, il y a des façons, selon moi, où peut-être tu pourrais envoyer les meilleurs et pas perdre ces gars-là pendant deux semaines. Je pense qu'on pourrait être créatif là-dessus.
Bon, Marc, on va terminer en parlant d'une équipe, les Pirates de Pittsburgh, dont tu as parlé dans ton dernier texte. C'est une équipe, tu penses qu'il y aurait le potentiel de créer une certaine surprise cette année, à l'image un peu des Orioles de Baltimore qui ont fait deux pas de géant au cours des deux dernières années. Et il y en a un sur lequel tu as porté ton attention, c'est Paul Skenes, le lanceur des Pirates de Pittsburgh. Certains pourraient même comparer quant à sa présence au monticule à Garrett Cole.
Bon, écoutez, dans le cas des Pirates, je pense pas qu'ils vont faire ce que les Orioles ont fait. Je pense juste que c'est une équipe qui s'en va dans la bonne direction. On a parlé un petit peu des Reds aussi, malgré quelques blessures du côté des Reds. On va y revenir rapidement. Mais écoute, Skenes est un phénomène de la nature, là. Ce gars-là arrive, physique imposant. Je sais pas s'il va commencer l'année avec les Pirates, mais on va le voir en 2024. On a posé quelques gestes chez les Pirates. Bon, il y a toujours la question d'être en santé, la question de voir les jeunes se développer. Mais, tu sais, pour une organisation qui n'a pas beaucoup de sous, il faut être créatif, il faut développer. Bien là, on est rendu peut-être à un point où on va voir le résultat de tout ça. Combiné, McCutchen est encore là, donc il y a des vétérans qui sont autour, mais j'ai l'impression qu'on pourrait voir cette équipe-là. Tu sais, la nationale, la centrale dans la nationale ne sera peut-être plus là, je dirais pas un jeu d'enfant lorsqu'on arrivait, puis on jouait à l'époque contre les Pirates, puis même les Reds pendant longtemps, ouais. puis c'est quasiment des victoires assurées. Ça ne sera plus le cas, là. Et ouais. je vous dirais qu'on pourrait voir les Pirates donc faire un bond intéressant et se préparer pour la suite des choses dans les années à venir, mais j'haïs pas du tout ce que je vois de cette équipe-là.
Oui, écoute, on va terminer à les Reds. Il y a un deuxième régulier qui tombe au combat après Noel V. Marte. Là, c'est TJ Friedel. C'est peut-être pas un nom aussi gros que certains autres. Là, je pense aux joueurs d'avant-champ, les McLean, India, De La Cruz. Sauf que Friedel amène... c'est un leader au sein de l'équipe. Là. C'est un jeune leader. Il est très énergique. Et là, on vient de le perdre. Là, un régulier, deux... Je sais qu'on a de la profondeur, on en a parlé récemment. J'ai juste peur là, que du côté des Reds, c'est ça, on va peut-être manquer de profondeur à un moment donné.
Bien, tu sais, Alain, on parle, c'est le début de saison. On parle de l'espoir du début de saison, puis de dire, bon, cette année, c'est notre année, ou cette année, là, on part. Puis là, tu pars avec, tu sais, un joueur régulier, ton joueur d'avenir numéro un qui est suspendu. Tu sais, ça. Ça part un peu moins bien. Bon, ceci étant dit, ce sont des professionnels. Je pense que dans l'organisation, on est capable de combler un peu, mais tu comprends, ça, il y a un aspect un peu mental dans tout ça, en se disant, bon, on a confiance, mais il me semble que l'espoir est un peu moins présent en raison de ces blessures-là ou de ces suspensions-là. Je pense quand même que les Reds vont avoir une bonne équipe, mais comme je le dis, c'est tu veux partir du bon pied, tu aurais aimé ça avoir, évidemment, tous tes soldats en poste, ça ne sera pas le cas avec les Reds.
Mais Marc, ça complète notre balado cette semaine. Juste dire un peu de patience, il reste 10 jours ou à peu près avant le début de la saison régulière officielle. Évidemment, il y a les matchs qu'on va disputer à Séoul, mais le vrai début de la saison, c'est dans moins de 2 semaines. Donc, très, très bientôt, on y sera. D'ici là, on vous souhaite bon camp d'entraînement. Bonne semaine tout le monde. À lundi prochain.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville. Fier partenaire de votre passion.